L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Le témoin du vendredi, Sébastien de Courtois.
Les chrétiens catholiques, syriaques et arméniens s'entendaient parfaitement entre eux, mais chaque branche tenait à avoir sa propre église, à amouder le cordonnier, l'épicier, le quincaillier, le boulanger, l'orfèvre, les vendeurs de tissus, le buraliste, le cocher de l'unique fiacre. Tout ce monde était forcément chrétien. La communauté chrétienne tenait le haut du pavé grâce à son dynamisme débordant et son sens de la discipline.
Unis, je ne sais, mais les chrétiens d'Orient avaient souvent une réputation de dynamisme, en effet, issus de leur histoire minoritaire et de la résilience qu'ils avaient manifestée après la longue série de massacres qui accompagnèrent les dernières convulsions de l'Empire ottoman. De nouveau, ils traversent une période noire, mais ils ne sont pas seuls. S'il fallait calculer en chiffres, les musulmans sont les victimes les plus nombreuses de Daesh. La minorité la plus maltraitée est celle des yézidis. Un évêque chrétien dit d'ailleurs « Ils nous ont protégés en 1915, à nous de les aider maintenant ». Mais il faut réfléchir autrement qu'en pourcentage. Même repliés loin de leur base, les chrétiens n'ont pas fini d'interroger les sociétés de la région. Par leur absence, s'ils ne pouvaient revenir, par leur présence énigmatique, s'ils ne pouvaient se maintenir qu'à l'état de signe. Les circonstances de la vie de Sébastien de Courtois ont fait qu'il vit au milieu d'eux. Il ne voit pas cela comme un hasard. Il les défend, mais non pas comme une cause politique, parce qu'il témoigne de la diversité et de l'intériorité de l'homme. Il se veut aussi respectueux pour ceux qui aimeraient vivre en paix avec eux. Un voyageur, dit-il, noue et réunit toutes les vies qu'il a rencontrées et qui, lors de son passage, ont bien voulu lui donner un peu d'elle-même.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Sébastien de Courtois, bonjour.
Bonjour.
J'essaie de vous citer cette belle phrase que j'ai écorchée. Je l'ai trouvée dans un des nombreux livres que vous avez publiés déjà. Le dernier chez Stock, sur les fleuves de Babylone. Nous pleurions. Il ne faut pas que nos auditeurs imaginent que vous êtes un expert qui va donner une vision géopolitique de la région.
Je la donne aussi en partie, mais ce que je veux avant tout, c'est apporter du témoignage, être une sorte de passeur finalement, et être les yeux et être l'oreille de tout ce que je peux entendre et de tout ce que je peux rapporter, surtout au retour de ces voyages. Quand j'ai commencé mes recherches dans ce domaine-là, j'ai pas voulu être un chercheur de bibliothèque simplement. J'ai toujours voulu être véritablement sur les terrains et voir ce que tous ces gens-là avaient à nous dire.
Parce que vous avez failli être autodidacte à vous lire, élève moyen, avocat médiocre.
Alors j'ai eu plusieurs petites vies déjà effectivement, et il m'a semblé assez important de réorienter une carrière qui partait effectivement dans un sens qui ne me convenait pas. Et c'est le hasard d'un voyage, figurez-vous, qui a fait que j'ai complètement réorienté, certes avec une passion, une envie de découvrir d'autres univers. Et c'est la Turquie qui m'a apporté certaines réponses.
Alors les premiers voyages, vous les faites en partant de la gare routière de Bagnolet avec le sac et les moyens du bord.
Voilà, exactement.
Et en Turquie, vous poussez jusqu'aux extrémités, jusqu'aux vallées orientales de la Turquie, vers un endroit qui s'appelle Tur Abdin, on dit la montagne des serviteurs. Premier choc, c'est là.
C'est un mot syriaque, effectivement, donc ça veut dire une implantation monastique depuis le très haut Moyen-Âge, et je suis arrivé là complètement par hasard. Il faut bien comprendre que je n'étais pas du tout fait, je ne savais même pas où j'allais, j'ai juste suivi un voyage qui avait été lancé par un ami, et j'arrive là-bas, et je dois être touché par quelque chose, alors une sorte de grâce peut-être, dans ces monastères syriaques où l'araméen est encore parlé et encore chanté par les moines.
Mais ces monastères sont un peu en déclin. Il y en a eu 70 à la meilleure époque. Quand vous y arrivez, quelle année ?
2000, je crois.
Les moines sont moins nombreux, terrés un peu. Mais enfin, c'est le propre de ces monastères d'être dissimulés, de ne pas être en haut d'une montagne comme le mont Athos.
Alors, ils sont au sommet de petites collines, disons. C'est un plateau montagneux de 1300 mètres d'altitude. L'un des berceaux les plus importants, il faut bien s'en rendre compte, du christianisme oriental. C'est-à-dire même du christianisme en général, parce que nous sommes au juste au nord de la Mésopotamie, donc à la fin du désert de Syrie, et ce sont certainement les premières montagnes où des ermites, au 2e, 3e, 4e siècle, se sont arrêtés de manière tout à fait naturelle, je pense. Et après, ils sont allés jusqu'en Anatolie, en Cappadoce peut-être, ils sont allés beaucoup plus loin. Et donc cet endroit est là où tout a commencé, je pense, où beaucoup de choses ont commencé. Et ça se voit dans les lieux, même si comme vous le dites, il y a beaucoup moins de monde, évidemment. À l'heure actuelle, on parle de 3 monastères importants et peut-être de 2000 syriaques, c'est-à-dire des gens qui parlent l'araméen encore, le syriaque, disons.
Quand vous rentrez, touché, et que vous parlez à un universitaire, François Tual, de votre envie de travailler sur la question, il dit, mais on n'a pas beaucoup de textes, sinon les témoignages de l'époque, des dominicains, par exemple, sur le sort qui a été celui de ces chrétiens de Turquie orientale qui n'étaient pas arméniens. Voilà. Un sort très difficile dans les dernières convulsions de l'Empire ottoman, on peut dire depuis 1894 jusqu'en 1920.
Ils ont été massacrés exactement de la même manière que les Arméniens dans d'autres vilayets, c'est-à-dire dans les provinces qui les entourent. Donc ce qui permet de montrer aussi qu'il y a eu un mouvement beaucoup plus ample que le génocide arménien. Et effectivement, François Tual m'a à l'époque aiguillé vers cette piste de recherche. Donc j'ai réorienté, je suis revenu à l'université, finalement, à près de 30 ans.
Ben oui, vous n'êtes pas un autodidacte, vous travaillez aussi beaucoup en bibliothèque. C'est une publication qui est un master, c'est demain peut-être une thèse, si vous avez le temps de l'achever. Je reviens à ce qu'on disait, je ne suis pas un expert, expliquez-vous, je ne vais pas donner des pourcentages. Vous n'allez pas nous dire, il y a tant de chrétiens comme ci, dans tel pays.
On peut le faire, si vous voulez, on peut présenter le monde des chrétiens d'Orient en faisant des listes par pays et en donnant des pourcentages. L'Égypte, les Coptes, une minorité de 10%. Bon, par exemple, on peut faire la même chose pour le Liban, pour la Syrie, pour l'Irak, pour l'Iran même, pour le sud de l'Inde où il y a une population syriaque importante. Mais c'est pas là l'intérêt, je pense. Qu'il faut comprendre que les chrétiens d'Orient appartiennent à la culture même de ces pays. Souvent des cultures, je pense à la culture arabe, à laquelle ils ont participé à cette fondation, à cette restructuration par la grammaire, par les sciences, c'était des traducteurs, des interprètes. Donc ces gens-là appartiennent finalement à ces cultures, donc si on en fait des pourcentages, on les réduit finalement dans des chiffres qui ne sont pour le coup plus que symboliques. Parce que regardons la Turquie, moins de 100 000 chrétiens sur une population de 75 millions d'habitants. Mais néanmoins, l'élément chrétien est très important.
Alors ils ont pu participer par calcul notamment à la constitution des nouveaux États nationaux qui sont nés après 1920, mais ils sont d'un autre temps, d'un autre espace-temps, peut-être que celui de ces frontières modernes. C'est ce que vous dit Fawaz Hussein. Fawaz Hussein, c'est un écrivain kurde, et il témoigne ici du passé d'une localité située en Syrie, mais à 1 kilomètre de la frontière turque.
Quand je parle de la frontière entre la Syrie et la Turquie, bien sûr, la frontière, c'est quoi? C'est le chemin de fer tracé par les Allemands et les Français. Et bien sûr, il y a le champ des mines aussi, qui a été planté par la nouvelle République turque. Mais la frontière, en réalité, ça n'existe pas. Quand la frontière a eu lieu, c'était comme si on coupait un corps en deux parties. La moitié de ma famille s'est trouvée en Turquie. J'étais très très étonné parce que je voyais mes frères et mes cousins, ils étaient tout le temps, enfin ils se côtoyaient, mais j'ai dit, mais où sont les chrétiens? Vous n'avez pas d'amis chrétiens? Parce que moi, j'avais énormément d'amis chrétiens arméniens. Quand il y avait la fête, on allait boire de l'arak chez eux, ils venaient chez nous. Mais de quoi parles-tu? Cette union n'existe plus, il y a une coupure totale maintenant entre la communauté chrétienne syrienne et la communauté kurde syrienne. Ça, c'était pour moi un choc terrible, je n'arrive pas à le comprendre.
Le champ de mine, c'est celui que la Turquie avait installé pour se préserver des Kurdes de Syrie et que pour empêcher la constitution d'un État, d'un rêve de Kurdistan. Fawaz Hussein, que vous connaissez bien.
Oui. Je l'ai rencontré à Diyarbakır lors d'une foire du livre il y a quelques années. Et nous nous sommes tout de suite très très bien entendus. Lui, moi l'occidental installé en Orient, comme il me dit, et lui l'oriental installé en Occident, parce qu'il habite en France depuis une trentaine d'années. Mais son parcours est symbolique aussi de beaucoup de choses par rapport aux événements actuels en Syrie. Et il est catastrophé, évidemment, comme beaucoup de gens qui ont connu ces pays-là avant le début de la guerre en 2011. Et lui, petit musulman, petit kurde musulman, ayant grandi dans une école coranique les premières années de sa vie, a été mis dans une école catholique par son père. Et voilà, et ça ne posait à l'époque, dans les années 70, mais strictement aucun problème.
On évoquait le monastère que je disais vieillissant, que vous avez visité pendant votre premier séjour. Voici le témoignage d'un monastère qui surgit de par le charisme d'un jésuite italien qui s'appelle le père Dall'Oglio et qui expérimente la théorie de l'hospitalité d'un grand orientaliste que vous avez beaucoup pratiqué qui s'appelle Louis Massignon.
Oui, alors le Marmoussa est un des phares de cette Syrie où l'été, je crois que le monastère, malgré l'enlèvement, il faut le rappeler, du père Dall'Oglio par Araka il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, dont nous n'avons toujours aucune nouvelle, faut-il le préciser. Il avait passé 20 ans de sa vie à relever ce monastère, le petit monastère de Marmoussa, et justement à recréer une communauté de langue syriaque et à rapprocher le monastère de son environnement, c'est-à-dire les bédouins musulmans. Et le monastère était devenu une halte physique parce qu'on s'y arrêtait pour se nourrir, pour se ravitailler, mais aussi une halte spirituelle et de partage entre ces différentes communautés.
Le père Dall'Oglio fait partager son enthousiasme à un journaliste québécois.
En 82, je suis tombé sur un monastère abandonné, syriaque, orthodoxe d'origine, propriété de l'église syriaque catholique. Je suis tombé amoureux de cet endroit incroyable, un monastère perché sur des rochers, au milieu de nulle part, face d'un désert infini.
Parlez-nous un peu justement de ce monastère, est-ce qu'il était en parfait état?
Il était en parfait état de ruine. Donc ça a été un long travail de 10 ans, avec une école de restauration, pour restaurer les lieux. Et après on a créé une communauté de frères et sœurs orientales, écuménique pour l'harmonie islamo-chrétienne. On a dû bâtir beaucoup parce qu'on est arrivé à 50 000 visiteurs par an. Et beaucoup d'activités dans le dialogue islamo-chrétien, des congrès, beaucoup d'activités dans le travail pour combattre la désertification, avec la population locale pour le développement durable dans une situation naturelle difficile. Avec les gens, nous avons imaginé des choses, commencé des projets,
puis il a été enlevé, vous le disiez, Sébastien de Courtois, l'été 2013, il a disparu depuis. Il y a des limites à l'idée de l'hospitalité et à l'idée de l'échange. Vous vivez ça cruellement, c'est votre expérience personnelle. Vous étiez parti, vous aussi, sur cette base, avec presque une certitude. Et ce qui se produit, ce qui s'accélère depuis l'été dernier, met fin à votre certitude.
Il y a des risques, évidemment, et ce qui est très triste dans cette aventure personnelle, je pense au père Paolo, c'est qu'il a été finalement consumé par son hospitalité, justement. Il a cru jusqu'au bout qu'il allait être reçu toujours de la même manière. La même manière peut-être que lui-même recevait les visiteurs de passage. Et malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux et nous ne sommes pas tous au même niveau de compréhension. Et je pense qu'il y a parfois des accidents qui arrivent. Et voilà, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai pas la même vocation que le père Paolo, bien entendu. Moi, j'ai une vocation beaucoup plus modeste, une vocation d'observateur, peut-être.
Vous voulez dire qu'il a été peut-être trahi ou d'autres comparables à lui par ceux dont il pensait qu'ils étaient ses amis?
Ça, je ne sais pas. Simplement, la Syrie a évolué de telle manière. Il y a eu d'autres enlèvements. Je pense aux deux archevêques de la région d'Alep, par exemple. Et il y a des meurtres de chrétiens très, très régulièrement, des enlèvements, des rançons. Donc, est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est mafieux, je crois qu'on peut, on peut pas vraiment le savoir encore. Je suis très inquiet pour l'avenir de la communauté chrétienne de Syrie. Actuellement, il faut savoir que l'archevêché d'Alep a été détruit la semaine dernière par des tirs de roquettes qui viennent du front al-Nosra. Des roquettes tombent très régulièrement sur Damas aussi. Il y a eu des tués dans le lycée français à Damas. C'est une situation qui est très difficile pour tout le monde, pour tous les Syriens. La seule chose dont on est certain, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour les communautés chrétiennes et pour les autres minorités religieuses dans la Syrie de demain.
Mais vous revenez en 2014, l'été dernier, quand le combat s'accélère face à Daesh, dans des lieux que vous aviez visités en 2008. Quelles impressions on peut prendre un lieu ou un autre, Al-Khosh par exemple?
Une impression de désolation parce que j'ai découvert Al-Khosh au cœur du mois d'août par une température de 48 degrés, une ville abandonnée, et au moment où nous visitons le monastère de Rabban Ormez qui est sur le haut de la colline, qui m'a d'ailleurs fait penser au monastère de Mar Gabriel, Saint Gabriel, que je connais bien dans le Tour Abdin et pour lequel nous montons un projet de restauration de mosaïque, d'ailleurs avec un très très beau film de Jean-Claude Lua. J'essaye aussi toujours d'apporter l'image, de montrer, de communiquer le mieux possible sur ces endroits.
Alors, ce monastère, il est abandonné quand vous y alliez. Quand vous y allez l'été 14, vous errez dans des pièces vides.
Vides. Les portes étaient encore ouvertes. Les théières étaient pratiquement encore chaudes. Les moines étaient partis la veille. Une impression de désolation. Une ville qui respirait la vie, que j'avais connue justement, comme vous l'avez, en 2007-2008, qui débordait. Il y avait les enfants couraient dans les rues. Et on entend l'aviation américaine et les premières frappes qui tombent sur le village de Tel Kef. Donc les premières frappes contre Daesh et ça c'était impressionnant parce que là j'avais véritablement l'impression de vivre l'histoire d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Donc la surprise effectivement est peut-être venue de ce côté-là, une sorte d'accélération du temps. 2008-2014, 6 ans, c'est vraiment pas grand-chose et pourtant c'est allé très très vite.
Vous essayez de témoigner par la photographie, par l'écrit, un reportage comme il y en a eu beaucoup l'été dernier à Karakoch, signé Robert Allo, je donne son nom.
Nous sommes de Karakoch, près de Mossoul, une ville à majorité chrétienne. Le 25 juin a commencé l'attaque contre Karakoch et nous avons fui vers Erbil.
C'était le 18 juillet. Nous avons été obligés de quitter nos maisons. Pendant la nuit, nous avons entendu le haut-parleur déclarer: vous, chrétiens, vous devez choisir entre l'islam, être tué, payer la taxe ou quitter vos maisons. Nous sommes restés fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Alors nous avons tout quitté et nous avons pris la route avec quelques vêtements et très peu d'affaires.
On ne veut pas se venger, on ne veut rien d'eux. On ne veut pas de la vengeance humaine. Ça ne peut pas calmer le feu de la douleur qui est en nous. Mais c'est notre Dieu qui va calmer ce feu.
Les chrétiens vous disent, si on vous explique que nous nous sommes convertis, ne croyez pas. Ce qu'on vous dit, c'est de la propagande.
Oui, c'est ce que vient de dire cette dame, d'ailleurs, qui est très, très émouvant. Les chrétiens, on leur propose finalement de se convertir. Alors c'est une conversion, à mon avis, tout à fait imaginaire, parce que personne n'a jamais accepté. Donc c'est soit la conversion, soit vous payez un impôt, soit c'est la mort ou l'exil. Bon. Et tous les chrétiens de Mossoul sont partis, effectivement, parce que personne n'a jamais accepté ce genre de marché. Et par rapport à Karakoch, qui est cette ville qui a été attaquée donc quelques semaines après la chute de Mossoul, nous sommes dans la nuit du 5 au 6 août dernier 2014, ce sont 150 000 chrétiens, avec des yézidis, des Kurdes yézidis, qui ont fui et qui ont dû partir pour Erbil, pour d'autres endroits, et essayer de fuir cette violence extrême.
Au Yézidi, il n'est pas proposé la conversion. Il est proposé aux hommes l'extermination et aux femmes la vente. C'est exact qu'en 1915, des Yézidis ont protégé des chrétiens et que maintenant, des chrétiens disent il faut les aider en échange.
Oui, c'est absolument exact. On a recueilli beaucoup de témoignages allant dans ce sens. Beaucoup d'Arméniens, d'enfants arméniens, de Syriaques aussi ont été sauvés par les Kurdes yézidis. Les yézidis pratiquent une religion qui est pré-islamique et pré-chrétienne, bien entendu. Et c'est une réflexion que m'a faite Monseigneur Kasmoussa, que j'ai rencontré à Erbil l'été dernier. Ils nous ont aidés en 1915. C'est à nous de les aider maintenant. Et c'est pour ça qu'il m'a enjoint avec les journalistes qui étaient présents, les autres journalistes, de leur dire de ne parler pas que de nous, mais parler aussi des yézidis. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Vous n'avez de statut que journaliste volant, pigiste. Permettez-moi cette question un peu triviale, Sébastien de Courtois. Vous vivez de la mort de vos amis parce que maintenant, tout le monde vous demande.
Alors c'est
au Stock vous demande un livre sur les fleuves de Babylone, nous pleurions. Le Figaro magazine auquel vous contribuez depuis longtemps continue de vous demander des papiers. Des journaux qui ne s'intéressaient pas à la question vous sollicitent.
Mais votre question est très juste finalement parce que il faut des drames, il faut cette violence de l'été dernier pour que finalement une forme de clivage peut-être idéologique, politique, confessionnel explose, parce que cette question des chrétiens d'Orient, faut-il encore le répéter, n'est pas un sujet que confessionnel. C'est une question d'humanité, tout simplement une question de civilisation, je pense profondément, parce qu'incarne l'histoire de la Mésopotamie. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'histoire si on remonte jusqu'à l'époque assyrienne, et nous sommes ce qu'ils sont, et eux-mêmes sont ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus. Je pense qu'il s'agit de la seconde partie de notre âme, peut-être, qui vogue encore sur les fleuves de Babylone.
Et vous êtes ce que tous ceux qui en Orient ont partagé avec vous, ont bien voulu vous donner. Je voulais qu'on évoque l'un de vos amis qui vivait naguère à Alep, en Syrie, c'est là que vous l'avez connu. Extraordinaire palais, une expérience que d'y passer un petit moment en sa compagnie. C'est un Alsacien d'origine, Julien Weiss.
Là, ma grande chance a été de connaître d'abord Julien Weiss et ensuite de connaître Alep avant la guerre.
On l'entend ici évoquer la maison qu'il a dû quitter.
Là, on découvre toute la magie de ce lieu, de ce quartier où on peut s'échapper du bruit de la ville en rentrant dans des petits labyrinthes comme ça. Ahlana Bouabboud, Shlona Habibi. Vous êtes ici dans le centre un peu spirituel de ma maison, qui est cette coupole du 14e siècle qui culmine à 17 mètres de haut, qui est un lieu magique qui pourrait faire penser à une chapelle byzantine et qui est en fait du pur art mamelouk. Le Qanoun, la sitar arabe, qui est l'ancêtre du clavecin, qui est un de mes derniers prototypes, une pure merveille que j'ai fait faire à Izmir, en Turquie.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Julien Weiss, qui est devenu musulman, a dû quitter néanmoins Alep, que vous avez retrouvé à Istanbul, où vous étiez voisin.
Oui, près de la tour de Galata.
Et à Parfum Ottoman, l'un de ses albums, vous avez emprunté le générique de l'émission que vous animez maintenant sur France Culture le dimanche et qui s'intitule Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois. Parce que vous êtes installé, bien que producteur à France Culture, à Istanbul. Alors, la Turquie, je ne sais pas si vous avez aimé Istanbul d'emblée, aurait pu être, dites-vous, une immense puissance attirante.
Oui, s'il n'y avait pas eu ces drames de l'histoire, évidemment, on pense à la disparition des Arméniens, à la fuite de tous les Grecs dans les années 60-70, à la fuite des communautés juives aussi, et tout un tas de gens qui auraient pu apporter énormément à ce pays, encore plus qu'il n'est maintenant. C'est vrai que c'est un pays qui a souffert de l'absence de disparités et de cette mosaïque orientale qui existe toujours d'une certaine manière, mais qui aurait pu être encore plus importante. N'oublions pas que c'était l'un des grands centres de l'Empire romain, tout simplement.
Du voyage peut naître un nouveau voyage. De Turquie, on peut partir, vous l'avez fait dès 2005, sur les pas des chrétiens d'Orient, mais plus loin. Alors plus loin, à l'Est, vous avez suivi les traces des Nestoriens, une église dissidente, qui vous ont porté, à leur suite, vers l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et la Chine par les chemins de la route de la soie.
Alors ça, c'est un autre périple qui est lié à l'expansion orientale de ce christianisme que l'on connaît sous le nom de christianisme nestorien. Et il m'a semblé important de refaire encore une fois, c'était un voyage alors là pour le coup initiatique, pas à pied complètement jusqu'à Kashgar, mais en partant d'Istanbul, en m'arrêtant à Alep, justement, une halte heureuse chez Julien Weiss dont nous parlions, et en continuant par tous ces chemins de traverse, en traversant et jusqu'en Asie centrale et puis la Chine.
Finalement. Oui, alors un livre sous votre signature est consacré à ce voyage. Et on voit les traces qui s'amenuisent à mesure que vous avancez vers l'Est. Néanmoins, les Nestoriens, qui ont été là du 7e siècle jusqu'au Mongol, jusqu'au 13e, ils ont laissé ici telle stèle, peut-être une pagode, ou en tout cas un mot chrétien pour désigner le lieu de la pagode. Vous avez appris un peu de chinois?
Enfin,
Sadin,
non,
Kadin.
Dachin.
Ah, ben, voyez, vous êtes beaucoup plus avancé que moi. Des cimetières? Des croix en grand nombre.
Dans les musées, par exemple, on trouve partout des croix avec des inscriptions écrites en ouïghour, qui est la langue des Turcs originels. Des tribus turques et mongoles s'étaient converties au christianisme, et c'est cette histoire après laquelle je suis parti. Dans chacun de ces pays, et c'est là où c'est étonnant, j'ai trouvé des traces, c'est-à-dire soit un archéologue qui était passionné par ce sujet-là, soit même des traces vivantes. Je pense à cette chrétienté, à ces chrétiens du lac d'Urmia en Iran, près de Tabriz, qui sont encore dans cette mouvance des langues syriaques.
Alors, pour situer l'époque de cette implantation des chrétiens, vous faites la comparaison avec une fouille qui aurait pu avoir lieu à Saint-Germain-des-Prés à l'époque mérovingienne ou carolingienne, et on aurait trouvé des objets taoïstes. Ben, c'est un peu la même chose.
Ben, c'est un petit peu la même chose. Il faut savoir que c'est le premier contact formalisé avec la culture chinoise. Des moines nestoriens persan très certainement, arrive à Xi'an, qui est la capitale impériale, au début du 7e siècle. Et dans les années qui suivent, les évangiles, en tout cas une partie des évangiles, sont traduits en chinois. Alors on a retrouvé des fragments simplement, mais c'est très certainement la première formalisation d'un véritable échange culturel.
Enfin, les Chinois quand même se demandaient déjà à l'époque si vraiment le Christ a existé, pourquoi il s'est pas adressé à nous d'abord. Alors ça, ce sont les voyages orientaux, vous en avez fait d'autres à partir de la même base, plus à l'ouest, Rimbaud.
Oui, c'était l'Éthiopie surtout qui m'a attiré, cette Éthiopie chrétienne, et Rimbaud a été une espèce d'étoile filante qui est apparue sur mon chemin, et du coup j'ai consacré la suite et la fin de ce voyage et cette passion fantastique que j'ai eue en découvrant les lettres de Rimbaud et la vie d'Arthur Rimbaud.
L'Abyssinie des anges, c'est évidemment celle-ci qui vous intéresse le plus, parce que je ne sais pas si vous voyagez beaucoup avec Rimbaud, vous voyagez avec saint Augustin. Dieu,
oui.
Retourne-nous. Montre ton visage et nous serons sauvés. Donc le voyage, c'est un retournement.
C'est un retournement en soi, je pense, oui.
Sur les fleuves de Babylone, nous pleurions. C'est un des livres que nous avons évoqué, Sébastien de Courtois. Je recommande aussi celui consacré aux Nestoriens sur la route de la soie et celui que vous avez écrit sur Rimbaud en Éthiopie. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Lola Jordan, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, avec à la technique Jean-Philippe Jeanne. Le programme du club, Mathieu Vidard, il y a un club.
Oui, il y a un club.
Donc, ce vendredi.
C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. On parlera de femmes dans l'espace, du noyau de la Terre et puis du mélanome également.
Merci.